Radio Capi. Le journal Lievin Mwinga à la présentation.
Mesdames, messieurs, bonjour à la une de l'actualité. Kinshasa, depuis lundi, capitale de la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale. Plus de 300 participants sont attendus. Objectif, évaluer les perspectives de développement agricole en Afrique centrale. Dans ce journal, les mots de la première ministre Judith Suminwa à l'ouverture de ce rendez-vous. Plus de 3500 participants aussi attendus cette fois aux États généraux de la justice, annonce du ministre Constant Mutamba qui confirme la tenue de ces assises devant la presse à quelques heures de l'ouverture des travaux. Une autopsie de toutes les résolutions prises sera faite à ce grand rendez-vous du centre financier de Kinshasa. En rapport toujours avec ce forum qui a pour thème « Pourquoi la justice congolaise est malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Le secrétaire général de l'intersyndicale des magistrats et président du syndicat chrétien des magistrats du Congo, Henri Dianda, va rappeler les revendications des magistrats. Il est notre invité. Bonjour à tous. C'est parti depuis hier lundi avec la 17e session de la réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale, ici à Kinshasa. Cette activité de 3 jours a pour thème le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale. Son objectif, évaluer les perspectives de développement agricole et stimuler le développement de ce secteur en Afrique centrale. Suivez un extrait du discours d'ouverture de la première ministre de la RDC. C'est Judith Suminwa, choisie par Miradi Mfuengi.
C'est un honneur pour la République démocratique du Congo d'accueillir ici à Kinshasa la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale. En effet, la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prône la revanche du sol sur le sous-sol, telle que reflétée dans le programme d'action de mon gouvernement, dans son pilier sur la diversification de l'économie, en mettant un accent sur l'agriculture et la transformation agricole dans le cadre d'un développement durable et dans la paix. En lisant le thème de cette rencontre, je me dois de relever la présence remarquable des institutions financières traditionnelles qui accompagnent la République démocratique du Congo dans ses différents projets de développement. Il me plaît de relever ici l'important accompagnement de la FAO à l'appui de la gouvernance institutionnelle de mon pays à travers l'élaboration de plusieurs documents stratégiques et dans la mise en œuvre des projets majeurs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère son engagement à éliminer la faim, à renforcer durablement la résilience des populations vulnérables, à promouvoir l'essor du secteur agroalimentaire et à en faire un véritable levier du développement.
Cette activité se tient au lendemain du Forum mondial de l'alimentation tenu à Rome en Italie, rencontre qui a rappelé le droit à l'alimentation suffisante, saine et accessible. L'actualité, c'est aussi les travaux des États généraux de la justice qui auront bel et bien lieu ce mercredi-ci jusqu'au 13 novembre au centre financier de Kinshasa, annonce du ministre Constant Mutamba au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce lundi à son cabinet. Mais que faut-il attendre de ces assises? En tout cas, le patron de la justice annonce une nouvelle politique nationale de réforme de ce secteur. Celle adoptée en 2015 fera l'objet d'une évaluation afin de comprendre pourquoi, sur 350 résolutions prises, plus d'une centaine seulement sont appliquées. Notez aussi que plus de 3500 participants venus de divers horizons sont attendus à ces assises, selon le ministre. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'État de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires.
Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? C'est le thème des travaux des États généraux de la justice, dont le coup d'envoi sera lancé ce mercredi 6 jusqu'au 13 novembre. Nous l'avons dit, à travers ce thème, environ 3500 participants vont évaluer la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la justice en 2015, poser un nouveau diagnostic et proposer des solutions idoines pour sortir notre justice de sa maladie. Jeff Ngoy pour d'autres détails.
Contribuer à l'instauration effective de l'état de droit en RDC est l'objectif global de ces assises qu'organise le ministère de la Justice. Experts nationaux et internationaux, délégués des ministères et de la présidence de la République, juristes et universitaires, magistrats, ministres et défenseurs des droits de l'homme vont s'interroger sur la non-application de la politique de réforme de la justice découlant des états généraux tenus en 2015. Un diagnostic sera posé au regard des enjeux de l'heure dans le secteur. Des actions à entreprendre pour l'effectivité de l'état de droit en RDC seront identifiées. Une cinquantaine de thématiques feront l'objet des discussions en commission après conférence et débat réparties sur une dizaine de panels. Il s'agit entre autres de l'état de droit, justice de qualité pour tous et modernisation de la justice. Pour quelles réformes? Les panélistes analyseront la problématique de la séparation des pouvoirs dans le système constitutionnel congolais, la protection constitutionnelle de la présomption d'innocence, son incidence sur la prolifération des mandats d'arrêt provisoire, la correction des erreurs dans le cadre du contentieux électoral.
Justice encore, du nouveau dans l'affaire Jacques Ndala, l'ancien président de la Ligue des jeunes du parti Ensemble pour la République, est invité à comparaître par une citation directe ce mardi 5 novembre devant le tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole. Il est accusé de propagation de faux bruits dans l'affaire de sodomie qu'il oppose à l'influenceuse Denise Mukendi d'Isocho. Selon son avocat, Simao Londo, il s'agit d'une procédure biaisée qui viole le droit de son client de dénoncer sur la place publique les sévices corporels qu'il aurait subis de la part des services de renseignement de la République lors de sa détention. On écoute son avocat, Maître Simao Londo, au micro de Jeff Ngoy.
Lorsque nous lisons cette citation directe, nous comprenons que c'est à la demande du ministre de la Justice suite aux propos qu'avait tenu M. Jacques Ndala lors de son interview avec une journaliste, Mme Kabibi, il me semble. Et dans ses propos, bien sûr, il avait soutenu le fait qu'il ait été violé par les agents de l'ANR. Il avait déclaré effectivement que Mme Denise Dussechois lui avait avoué, comme elle avait dit dans les réseaux sociaux, elle avait participé activement à l'interpellation, à l'arrestation, mais aussi au viol de M. Jacques Ndala comme auteur moral, si je peux dire ainsi. Comprenez par là que c'est une procédure biaisée qui consiste à faire taire notre client M. Jacques Ndala et que son droit le plus légitime en tant que victime lui soit retiré pour que ce qu'il a vécu comme étant des propos indignes de la République, indignes des services de renseignement, lui soit simplement interdit de le citer en place publique.
Une autre affaire qui retient l'attention des Congolais avant de boucler ce chapitre justice, c'est celle du détournement présumé des fonds alloués à la construction des forages d'eau et des lampadaires en RDC. Ce procès renvoyé au 18 novembre prochain par la Cour de cassation. François Rubota, ancien ministre du Développement rural, qui comparaît en homme libre, et Mike Kasenga, opérateur économique en détention à la prison centrale de Makala, s'était déplacé à la Cour de cassation pour cette première audition. Lorsque la nouvelle du report est tombée à cause des préparations des réunions qui s'enchaînaient sur les états généraux de la justice. Selon une lettre du procureur général près la Cour de cassation adressée à l'avocat de Nicolas Kazadi, député national et ancien ministre des Finances, auparavant poursuivi avec les deux autres pour les mêmes faits, il a été disculpé de l'affaire après avoir été innocenté par le chef de l'État lors d'une interview en Belgique. Rappelons que l'accord entre le gouvernement et le consortium Steve Construis Cameroun Israël de Mike Kasenga et Sotrad Water prévoyait l'installation de 1000 unités solaires de pompage et traitement d'eau dans 1000 localités pour près de 400 millions de dollars américains sur 5 ans. Plus de 70 millions de dollars seraient détournés. Sécurité à présent, les rebelles du M23 occupent depuis hier lundi le centre de l'agglomération de Kaira, territoire de Massissi au nord Kivu. Ce, après de violents combats qui les ont opposés dans la matinée aux combattants VDP Wazalendo de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains ANCDH de Jean-Marie Bonané. Selon plusieurs sources dans la région, les rebelles soutenus par le Rwanda, venus probablement de trois axes, notamment Kasopo, Boutalé et Kirumbu, ont pris d'assaut ce village, délogeant les Wazalendo de la colline Bouimba. La situation restait jusque hier soir tendue dans la zone. Quelques habitants de Kaira centre ont fui ces combats, prenant la direction de Boulindi, affirment nos sources. Celles-ci redoutent une éventuelle avancée du M23 vers le chef-lieu du territoire de Massissi. Et puis 40 officiers de la force de la SADC en République démocratique du Congo, Sami DRC, en formation hier lundi 4 novembre à Goma. Nous sommes là au Nord Kivu. La MONUSCO a procédé au lancement de cette formation des formateurs. Et par la même occasion, la mission onusienne a fourni à la force de la SADC en RDC un appui logistique composé d'une voiture blindée toute neuve et d'une trentaine de conteneurs maritimes. Cette cérémonie marque le début de la mise en œuvre de la résolution 2746 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l'appui que la MONUSCO pourvoit en vue de permettre à la force de la SADC d'être plus opérationnelle dans l'est de la RDC. On écoute s'exprimer à cette occasion Madame Vivian Van de Perret, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations. Elle est au micro de Chris Mokand.
Je suis très contente d'être venue encore une fois au siège de Samedi Assi à Goma. Aujourd'hui, je suis venue pour formaliser, en compagnie du commandant adjoint de la force Samedi Assi, une donation logistique de 30 conteneurs et une voiture blindée de la part de la MONUSCO, conformément à la résolution du Conseil de sécurité qui a demandé à la MONUSCO d'appuyer Sami DRC dans la mesure du possible avec nos moyens logistiques disponibles et dans la limite de notre mandat. Par ailleurs, nous lançons aujourd'hui la première série de formations aux officiers de Sami DRC sur les questions de droits de l'homme, de droit international humanitaire, de protection de l'enfant, protection de civils, de conduite et discipline et autres. La MONUSCO va continuer à appuyer Sami DRC car nous travaillons tous pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo.
Et pour sa part, le commandant adjoint de la force de la SADC en République démocratique du Congo a dit toute sa reconnaissance pour cet appui de la MONUSCO qui fera avancer le travail de Sami DRC sur le terrain. L'enclave de Kamandiguité est désormais sous contrôle du M23. Cette localité située sur les rives du lac Albert, à 10 km de Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero, est occupée par ces rebelles depuis dimanche après une offensive lancée aux petites heures de la matinée. Il faut dire aussi que cette localité revêt d'une importance stratégique et économique, comme l'explique Martial Papi Mukeba dans ce reportage.
Kamandiguité est un point d'accès lacustre qui relie plusieurs villages situés au bord du lac Édouard, dont la localité de Kavinyongé dans les territoires de Béni. Depuis Kamandiguité, il est possible de rejoindre la localité de Kassindiport, offrant ainsi un passage vers la frontière stratégique de Kassindi-Lubiria. Ce point permet également d'accéder à Kiondo et au centre de Lubero pour atteindre la région du Graben dans les territoires de Béni. L'occupation de Kamandiguité et de Vichumbi par les M23 permet aux rebelles d'exercer une influence sur le contrôle du trafic sur les lacs Édouard, ce qui leur offre la possibilité de percevoir des taxes illégales sur des dizaines de milliers de pêcheurs. Les rebelles du M23 ont ouvert un nouveau front dans les territoires de Walikale et continuent leur progression dans celui de Lubero, malgré des avancées dans les processus de paix de Luanda. Des experts de la RDC et du Rwanda ont convenu d'un plat de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR, un accord qui nécessite encore la validation délégation des ministres des Affaires étrangères des deux pays lors de la prochaine réunion prévue le 16 novembre à Luanda. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'ambassadeur israélien à l'ONU a critiqué le 4 novembre la Turquie pour une lettre demandant un embargo sur les armes à Israël, qualifiant cette initiative de malveillance et d'attaque politique. Cette demande, adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, appelle à suspendre les transferts d'armes à Israël pour éviter leur utilisation dans les territoires palestiniens occupés.
L'invité.
Il se tient du 6 au 13 novembre les travaux des États généraux de la justice sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Les magistrats représentés par leur syndicat disent attendre beaucoup de ce grand forum sur des réformes non achevées, notamment la non-application des résolutions des États généraux de 2015. Pour en parler, Radio Capi reçoit le secrétaire général de l'intersyndical des magistrats et président du syndicat chrétien des magistrats du Congo en Henri Dianda. Il rappelle différentes revendications des magistrats qui attendent des résultats escomptés à l'issue de ces assises. Henri Dianda s'entretient avec Jeff Ngoy.
Henri Dianda, bonjour.
Oui, bonjour.
Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Vous, en tant que magistrat syndicaliste, vous pouvez comprendre le choix de ces termes.
Les états généraux, c'est pour diagnostiquer de l'état de la justice aujourd'hui, comme ça l'a été en 2015, comme ça l'a été avant 2015, donc avec les états généraux qui ont eu lieu en 2004, il y a eu aussi des travaux comme ça qui a dû produire un plan d'action en 2007, donc un plan d'action de 2007 à 2012 qui devait pouvoir régir la politique nationale de la justice. Et bien, je crois que qu'après que nous ayons ce document-là, le document qui a eu en 2007 sur la politique nationale, sur la justice du pays, en 2012, il était arrivé à son terme. Je crois que 3 ans après, on a considéré qu'il y avait encore à faire et que, bon, ce plan d'action-là n'avait pas donné ou le résultat qui avait été escompté et qu'on a estimé que, bon, il fallait qu'on puisse faire des états généraux. Et c'est au base des états généraux qu'il y a eu en 2015. Ils ont pu tirer plus de 350 résolutions pour avoir en 2017 carrément un plan. Pour aujourd'hui, s'il y a encore des états généraux, c'est-à-dire 9 ans après, nous estimons que le magistrat suprême, qui est le chef de l'État, a estimé, parce que c'est lui qui a parlé de la maladie de l'appareil judiciaire, c'est dire qu'il a voulu qu'on puisse poser encore un diagnostic ou bien évaluer ce qui avait déjà été fait ou bien l'état de la justice actuelle.
Vous avez évoqué les états généraux de 2015 qui avaient produit un document de politique et de réforme de la justice pour la période allant de 2017 à 2026. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le même travail?
Je crois que la politique judiciaire est définie par le gouvernement et que, bon, on a vu qu'il y avait des faiblesses par rapport à ce document-là et qu'il fallait peut-être le réévaluer pour que l'on puisse avoir un autre document qui soit un peu plus efficace pour arriver à donner des solutions aux problèmes qui avaient été posés à l'époque. Parce que je crois que la grande thématique lors des assises de 2015, c'était sur l'accès à la justice. Mais également un point particulier sur la moralisation des acteurs de la justice. Donc si on doit dire, c'est une chaîne. Hein. Il ne s'agit pas seulement des magistrats quand on parle de la justice. Hein. Tous les intervenants, hein, même les organisations non gouvernementales, hein, qui est des partenaires aussi qui interviennent. Donc vous comprenez. Donc si aujourd'hui on va aux états généraux, nous disons que on a considéré que bon, il y a des faiblesses quelque part, mais qu'il fallait voir comment est-ce qu'il arrivait à donner une thérapie. Je sais que bon, en 2015, il y avait 8 thématiques qui avaient été exploitées pour que ça puisse fondre et arriver à donner à peu près de 350 résolutions.
Il y a par exemple la politique pénitentiaire qui était bien définie en 2015 avec la création d'un organe de gestion de nos prisons qui était prévu.
La DGAP, voilà. Écoutez, mais par exemple, vous avez vu que nous avons eu des problèmes ici avec nos prisons. Excusez-nous, nous avons fait partie de ce groupe thématique sur le pénitentiaire. Mais aujourd'hui, on sent que c'est vraiment un besoin. Les textes sont pratiquement prêts, à ce que je sache. En ce qui concerne la DGAP, la loi devant organiser cette direction-là qui, en principe, d'être implémentée au niveau de toute la République. Mais qu'on aille sur le plan pénitentiaire, voilà des problèmes qu'il y a, qu'on puisse aller d'abord avec cette loi-là. Ça va nous aider à ce que nous puissions pas chaque jour crier comment est-ce que le magistrat du parquet n'a pas fait son travail, où il y a des libérations conditionnelles qui doivent être préparées ici et là. On commence à chercher des responsabilités à gauche et à droite. Voilà, par exemple, des problèmes qu'il y a. Le cadre de concertation que nous disons aujourd'hui entre le ministère de la Justice et le CSM, je crois que ça va être très formel. Aujourd'hui, on sent encore qu'il n'y a pas tellement des interactions.
Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux de la justice?
Lorsque, au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État qui est magistrat suprême dit que la justice de son pays est malade, je crois qu'il sait de quoi il s'agit. Il sait où se trouvent les problèmes. Il doit savoir parce qu'il dit aujourd'hui qu'on puisse poser le diagnostic. Au bout du diagnostic qui sera encore posé aujourd'hui en 2024, je crois qu'à partir de ça, le chef de l'État, je crois, tirera des conséquences sur base de ce qui lui va lui être présenté en sa qualité de magistrat suprême. Nous n'allons pas revenir, il y a des problèmes du budget du Conseil supérieur de la magistrature, du pouvoir judiciaire par exemple. Un pouvoir, on dit un pouvoir qui n'est pas autonome dans son budget. Comment est-ce qu'il est à mesure de tenir des investissements? Parce qu'au-delà des salaires qui sont payés aux magistrats, mais il y a quand même d'autres choses qui peuvent être faites. Il y a des bibliothèques qui n'existent pas. Il y a des bâtiments qui, lorsque vous allez dans l'arrière-pays et que vous n'allez pas trouver, comment est-ce qu'on va arriver à résoudre tous ces problèmes-là? Je vous ai posé le problème ici des magistrats, de leur transport et tout ça. Ça n'existe pas. La formation continue des magistrats, ça n'existe pas. Il faudrait seulement que nous puissions avoir des partenaires étrangers qui viennent pour organiser des ateliers, pour la mise à niveau des magistrats. Non, il faut qu'il y ait une formation continue. Et cela sort d'où? Comment cela doit pouvoir être fait? Je crois qu'au bout de ces réflexions-là, si on arrive à poser un diagnostic sérieux, je crois qu'on peut remettre ces résolutions-là sur la table du chef de l'État, qui est magistrat suprême, pour voir dans quelle mesure il peut orienter les choses, pour voir la justice de son pays être guérie ou bien soignée, si on veut le dire comme ça.
Henri Dianda, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jeff.
Voilà, c'est sur cette ambiance concernant les préparatifs des États généraux de la justice que nous terminons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebou-Jangwe, à Jude Bilanda et à Polydor Basunga.